Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous aviez toujours voulu le savoir, mais vous n'osiez pas le demander. Dans une heure pourtant, vous n'aurez plus peur de répondre à la question. Mais qui était donc le premier empereur de Rome ?
Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange.
C'est une émission proposée aujourd'hui par Juliette Marcailloux, Didier Pinault, Laurence Genepin, Jean-Christophe Francis et Ludovic Auger. Il a régné sur l'Empire romain durant 40 années, de 27 avant notre ère jusqu'à ses 75 ans. Auguste a été l'un des hommes d'État qui a le plus imprimé sa marque à l'histoire de l'Antiquité. On l'a décrit comme un homme pragmatique et moins brutal que César, son père adoptif, auquel il a succédé après d'intenses luttes de pouvoir durant lesquelles il a évincé Marc-Antoine, notamment son plus grand rival. Mais que signifie d'avoir été le premier empereur romain ? Et qui étaient ceux qui gouvernaient cet immense territoire ? Avant la lignée qu'il inaugure, c'est ce que nous allons voir, entre autres, dans l'émission d'aujourd'hui.
D'un côté, c'est Auguste et son puissant génie, sur cette onde guerrière entraînant l'Ausonie, le peuple, le Sénat, Rome entière et ses dieux. De sa poupe élevée, il combat avec eux. Deux faisceaux lumineux, présages de victoire, l'environnent déjà des rayons de la gloire. Et sur son jeune front, empreint de majesté, de l'astre paternel resplendit la clarté.
Extrait du livre 8 de l'Énéide de Virgile, et on entend bien l'admiration du poète pour Auguste. Bonjour Frédéric Hurlet.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université Paris-Nanterre. On vous doit le livre Auguste, les ambiguïtés du pouvoir chez Duno, et puis vous avez aussi largement contribué au volume 2 de l'histoire romaine qui paraît chez Fayard et qui porte sur la période qui va d'Auguste à Constantin. Avec vous, on aimerait justement parler de celui qui a été le premier empereur de Rome, Octave Auguste, qui a succédé à César quand celui-ci a été assassiné. On comprend donc que César, lui, n'était pas un empereur de Rome alors.
Non, tout à fait. César est un personnage de la fin de la République romaine. Qui effectivement, on s'est beaucoup interrogé sur ses actions, c'est quelqu'un qui met en place un système qui progressivement devient monarchique. On sait aussi que César met en place petit à petit l'idée de la divinisation de l'homme de son vivant, et ensuite après à sa mort, mais César n'est pas un empereur romain. Contrairement par exemple à ce que dit un historien de Rome, Suétone, qui parle de la vie des 12 Césars, en fait César est le premier, celui par lequel tout est arrivé finalement, mais qui n'a pas le droit chez les historiens au titre d'empereur romain à proprement parler.
Donc c'est un dictateur, César, ou en tout cas il termine sa vie comme dictateur, et en même temps au sein de ce qu'on appelle la République romaine. Donc c'est pas évident de comprendre exactement de quoi il s'agit là. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu, Frédéric Hurlet ?
Oui, bien sûr. L'histoire romaine est traditionnellement divisée en trois grandes périodes. La royauté, dont on parlera pas aujourd'hui, qui est le début de l'histoire de Rome, et puis on a sur une période environ 5 siècles, la République romaine, qui se termine à une période qui est discutée, mais en tout cas avec Auguste quand il prend le pouvoir. Et cette République romaine, en fait, est une république qui s'appelle la res publica, la chose publique, la chose qui appartient à tous, et qui est en fait aux mains d'un certain nombre de personnes qui sont des magistrats, des hommes du pouvoir, exécutifs, mais aussi le Sénat. Et ce système a bien fonctionné pendant un grand nombre de siècles. Et puis à la fin de ce qu'on appelle la fin de l'époque républicaine, c'est-à-dire au 1er siècle avant Jésus-Christ, pour différentes raisons que je ne vais pas expliquer ici, le système se grippe. Mmh. Et donc le système ne fonctionne plus aussi bien qu'auparavant. Et en raison de la rivalité devenue mortifère entre plusieurs impératores, c'est-à-dire des grands généraux victorieux qui luttent les uns contre les autres, c'est Pompée contre César. Et à un moment donné, si vous voulez, César réussit à vaincre Pompée et à instaurer non pas un nouveau régime, mais à changer petit à petit ce régime qui était toujours, qu'il a connu quand il était évidemment jeune et qu'il a connu, qui est un régime traditionnel, ancestral, et il le change petit à petit. Alors il devient dictateur. Alors on peut dire, mais c'est étrange que dans une république romaine, il puisse y avoir un dictateur, puisque la république République est censée être libre, en tout cas c'est comme ça qu'elle se définit. En fait, la dictature est une magistrature républicaine comme une autre. Alors,
c'est un terme qui ne recouvre pas exactement ce que nous on met sous le terme de dictateur peut-être.
Exactement, c'est-à-dire que le terme a évolué précisément avec César. Donc c'est César qui a contribué à donner à notre mot de dictature le sens qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire un pouvoir tyrannique, un pouvoir d'exception et un pouvoir qui s'inscrit dans la durée. Alors que à l'époque républicaine, il y a eu de nombreux dictateurs, il y en a eu plusieurs dizaines, hein, tout au long entre 509 et César, la mort de César en 44. Et le dictateur était nommé lorsqu'il y avait un problème au sein de l'État, à la tête de la Respublica, notamment lorsqu'il y avait un problème militaire. On nommait une personne pour résoudre le problème pendant 6 mois maximum. La personne résolvait le problème et ensuite abdiquait à la fin. Et c'était comme ça que le système fonctionnait. Évidemment, le problème, c'est que ce pouvoir d'exception, qui peut se comprendre, devient dangereux lorsqu'il est durable. Et c'est ce que César a fait en 44, début de l'année 44, quand il a transformé la dictature ancienne, ancien monde, si vous voulez, en une dictature perpétuelle. Et là, il a fait passer un système qui était un système républicain à un autre type de système, mais évidemment qui n'a pas eu le temps d'être expérimenté puisqu'il est mort le 15 mars 44 au Sénat.
C'est comme si on perpétuait l'état d'urgence, par exemple.
C'est ça, exactement. C'est ce qu'on peut d'ailleurs, oui, ce qu'on a pu reprocher à César, c'est que César s'inscrit dans la République, c'est vrai, mais en créant cet état d'urgence qui existait auparavant, mais en le maintenant, eh bien, il met à nu, enfin, les problèmes du système républicain et il met à bas, en quelque sorte, le système. Puisqu'on voit bien qu'il y a une personne qui peut s'emparer du pouvoir et y rester. Alors ça n'a pas marché pour César, mais ça marchera pour d'autres.
Il aurait bien voulu devenir, je parle de César, le premier empereur de Rome.
Alors ça c'est un problème, c'est une question évidemment qui est passionnante, mais à laquelle il est difficile de répondre, parce que malheureusement, je dirais, il a été assassiné. Donc on ne sait pas exactement...
Peut-être parce qu'il souhaitait trop devenir le premier empereur de Rome et qu'on a voulu l'en empêcher.
Oui, alors ça c'était la raison officielle donnée par les conjurés, au nombre d'une vingtaine, qui disaient qu'ils ont tué en César le tyran. Donc effectivement, c'était vraiment... Et ils ont restauré la liberté, c'est ce qu'ils disaient. En réalité, quand on voit la liste de la vingtaine de personnes, on voit qu'il y avait un certain nombre de partisans de César. Donc il y a eu visiblement des conflits internes au sein de ce groupe de conjurés. Et donc, effectivement, on peut dire que César aurait voulu garder le pouvoir. Ça, c'est évident. Sous quelle forme, on ne le sait pas. Est-ce qu'il aurait... Alors, certains disent, César voulait devenir roi, comme l'avaient été d'autres rois de Rome. Il y en a eu 7 auparavant.
Ce qui est la hantise des Romains, ça, d'avoir un roi.
Exactement. Pour les Romains, c'était justement le tabou absolu, c'était quelque chose qu'il fallait absolument rejeter. Et donc, l'idée que César ait voulu devenir roi, moi, me semble inutile, parce que de toute façon, en tant que dictateur perpétuel, il avait déjà tous les pouvoirs.
C'était déjà pas mal, dictateur perpétuel.
Exactement. Donc, je pense pas qu'il ait voulu devenir roi, mais malheureusement, sa mort met un terme à tous les bruits qui ont couru. Et alors, notez bien aussi que, juste avant de mourir, César avait réuni le Sénat pour mener une grande campagne contre les Parthes, campagne dont il devait revenir victorieux et encore accroître son pouvoir, ce qui n'a pas été le cas dans ces conditions.
Alors on parle de République romaine, est-ce qu'on a là un système qui est déjà un début de démocratie? Comment le décrire, Frédéric Hurlet?
Ah oui, alors ça c'est oui effectivement, comment définir la République romaine? Alors dans mon esprit, et je ne suis pas le seul à le penser, la République romaine n'est pas une démocratie. C'est-à-dire, il y a des institutions, effectivement, qui fonctionnent. Il n'y a pas de monarchie à proprement parler, mais il n'y a pas de pouvoir du peuple. C'est-à-dire que, bon, il y a eu des discussions entre les historiens, certains pouvant parler d'une amorce de démocratie à la fin de la République. Mais c'est d'abord un Sénat qui, effectivement, vous avez raison, c'est un Sénat qui dirige Rome, avec, issus du Sénat, des magistrats romains qui sont issus des grandes familles, et on se rend compte que ce système fonctionne un peu en vase clos. Alors il y a quelques nouvelles familles, dont par exemple Cicéron, celle de Cicéron qui émerge, mais en général ce système est quand même bien, je dirais, cloisonné, il est en quelque sorte contrôlé. Donc c'est plutôt une aristocratie au pouvoir. Alors, on a parlé d'oligarchie dans le sens en mettant en avant le terme oligos grec, c'est-à-dire un petit nombre de familles qui dirigent Rome. Mais en tout cas, c'était pas une démocratie dans le sens où c'est pas le peuple qui décide de lui-même quelle est la marche à suivre, la politique à suivre. Thank you.
sans oser le demander sur France Culture. Nous sommes avec Frédéric Hurlet pour parler d'Auguste, le premier empereur de Rome. Le voilà donc qui arrive. Il naît le 19 août 14. Je crois me tromper là.
Septembre 63.
Il naît en septembre 63 avant notre ère. C'est-à-dire il y a quand même plus de 2000 ans. Il va mourir en 14. Je ne me trompe pas cette fois-ci. Il avait 75 ans. Il est mort à Nol, une cité située à environ 200 kilomètres au sud de Rome. C'est vrai qu'il est mort en souverain, mais il a eu à se battre toute sa vie presque pour s'emparer du pouvoir et le garder. Que pouvez-vous nous dire sur son enfance, sur le milieu dans lequel il est né ?
Auguste est né dans une famille municipale, c'est-à-dire dans un milieu qui n'est pas le milieu romain. Il est né en fait à Vélitre, dans une cité pas très loin de Rome. Et en fait, ce n'était pas quelqu'un qui était destiné nécessairement ni à avoir les principaux pouvoirs au sein de la République romaine, ni encore moins à devenir empereur. C'est quelqu'un qui a évolué dans une famille qui finalement qui était au départ éloignée du pouvoir. Si ce n'est que son père a fait pour la première fois dans l'histoire de la famille une carrière à Rome, il est devenu préteur, ce qui était pas mal. C'était juste l'échelon avant le consulat qui était le plus grand des pouvoirs, outre la dictature, mais qui était, comme je l'ai dit, exceptionnel. Et son père est mort Octave avait quelques années. On l'appelle Octave d'ailleurs, donc son nom c'est Caius Octavius, c'est un membre de la gens Octavia, qui est une famille qui n'est pas particulièrement dotée d'un très grand prestige.
De l'aristocratie municipale.
Voilà, exactement. Et ce qui va en fait tout changer, c'est d'une part bon le début de carrière de son père, mais ça reste encore très très peu. Et puis le père meurt finalement quand il était encore très jeune, le futur Auguste. Et puis surtout, ce sont les liens familiaux qui ont été développés par la famille biologique d'Auguste, c'est-à-dire d'une part le père qui était quand même au sein du Sénat en tant que préteur, et la mère Attia qui était elle-même issue d'une famille qui remontait à la famille de Jules César. Et donc Attia, alors d'une part c'est un point très important puisque elle permet de lier déjà le jeune Octave au grand César, puisque dans les années 50, César était en Gaule en train de conquérir cette région. Donc c'est déjà un point positif. Et puis Attia, quand son mari disparaît, se remarie assez vite avec un grand personnage, un homme important de la République romaine de l'époque, Lucius Marcius Philippus, qui ne dit peut-être pas grand-chose, mais qui est important parce qu'il était consul.
Donc au fond, certes, il n'a pas vocation à devenir le premier empereur de Rome. Enfin, il est quand même vraiment dans tous les milieux qui comptent, avec son beau-père et puis avec son grand-oncle, qui est donc Jules César.
Voilà. Et donc, il est dans des conditions, pour ce qui est des réseaux, il est dans des conditions plutôt bonnes. Et il est en tout cas en lien direct avec les grandes familles de Rome et il est en lien direct avec la vie publique à Rome. Cela dit, vous savez, l'histoire est faite parfois d'événements imprévus et d'événements qui ne se contrôlent pas et ensuite l'histoire rebondit. Et effectivement, il était le petit-neveu de César. Mais bon, César a disparu, c'est un accident de l'histoire, mais César n'avait pas d'enfant non plus. Donc César n'avait rien, n'avait personne à qui léguer l'ensemble de ses biens.
Donc au fond, il était le jeune garçon le plus proche de César.
Voilà, exactement. Mais il y avait des liens, d'ailleurs, avant la mort de César, le jeune Octave, lorsque César meurt, il a 19 ans, il est quand même encore jeune. Mais déjà auparavant, il avait participé à quelques campagnes, notamment la campagne en Espagne, aux côtés de César. Donc c'était quelqu'un qui était connu par César, qui avait fait ses premiers pas dans la vie politique en étant élu à une prêtrise, qui était la première étape. Et puis, effectivement, intervient la mort de César. Et César disparaissant sans enfant, il avait prévu un testament dans lequel, qui est lu donc à titre posthume, et dans lequel il adopte justement le jeune Octave. Jeune Octave, d'ailleurs, qui l'ignorait, il était assez loin d'ailleurs de Rome.
Il était lui-même en campagne.
En préparant la fameuse campagne justement de César contre les Parthes à l'est de l'Empire. Il était en train, avec son ami Agrippa, de l'autre côté donc de la mer Adriatique. Et donc il apprend, tout à fait, par une lettre de sa mère, il apprend qu'il est le fils adoptif à titre posthume du dictateur décédé. Et évidemment, ça change tout.
Qu'est-ce que ça signifie de recevoir l'héritage de Jules César, et peut-être même qu'est-ce que ça signifie de recevoir un héritage à cette époque-là de l'histoire.
Alors, ça, d'abord évidemment, comme aujourd'hui, ça signifie qu'on hérite de biens de la famille, et c'est important, même si c'est pas fondamental, c'est pas le plus important, parce que sans moyens financiers, sans terres que l'on possède, on ne peut pas entreprendre une conquête du pouvoir à Rome, en tout cas. Mais il y a plus que ça, c'est-à-dire qu'en devenant le fils adoptif de César, le jeune Octave hérite aussi des clientèles de son père adoptif. Il hérite aussi et surtout du nom même de César. Il devient à ce moment-là, alors pas tout de suite parce qu'il y a eu c'était progressif, mais quand l'adoption est reconnue officiellement, il hérite du nom de César, c'est-à-dire qu'il s'appelle comme son père adoptif, Caius Julius Caesar. Ça veut dire qu'il devient patricien. Donc il est membre d'une des grandes familles romaines qui remonte d'après la tradition aux origines de Rome. Et donc à ce titre, alors en plus d'après la légende familiale, les Iulii étaient à l'origine même de la fondation de Rome, et même avec jusqu'à Énée, c'est-à-dire jusqu'aux Grecs. Donc ça veut dire qu'à travers ce nom, Octave jouit d'une légitimité à faire de la politique et éventuellement d'aller plus loin et de prendre le pouvoir comme il l'a fait.
Et là, on comprend aussi un petit peu mieux le système politique, parce que si on n'est pas dans un cercle, si on n'hérite pas justement de ce pouvoir symbolique, on n'hérite pas non plus de tous les réseaux qui vont avec ce pouvoir symbolique, et on ne peut pas faire de politique, Frédéric Hurlet. Est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que on a l'impression là d'une société qui fonctionne de façon extrêmement népotique, où en gros certaines personnes détiennent le pouvoir sur un cercle de gens. Comment ça se passe exactement?
Alors c'est vrai, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que le système n'est pas totalement fermé. Ce n'est pas un système de caste, c'est un système d'ordre, avec des ordres institués. Mais on peut passer d'un ordre à l'autre, on peut passer d'une situation, d'un statut à l'autre. C'est possible, c'est pas le cas toujours le plus fréquent, bien entendu, mais c'est possible. Donc ce qui veut dire qu'il ne faut pas être trop déterministe en ce sens où on peut dire, voilà, il est impossible pour une personne d'accéder à un statut supérieur. Prenons le cas de Cicéron, qui était la grande personne au moment de la naissance d'Auguste, puisque quand Auguste naît, Cicéron est consul. Cicéron était un homme nouveau, qui naît d'une famille également municipale, et qui s'est imposé sur la vie politique. Alors ça s'est mal terminé pour lui, mais il s'est imposé, il est devenu consul, et a pesé sur la vie politique pendant quand même plus de 20 ans. Donc ça veut dire que le système permettait à des familles d'intégrer en quelque sorte le système politique et d'être à sa tête éventuellement. Et dans le cas d'Octave, c'est quand même un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que là effectivement il y a l'adoption qui joue un grand rôle, mais en même temps c'est intéressant de voir que César a adopté non pas une personne proche de lui parmi les grandes familles, mais il a adopté quelqu'un en qui, je pense, il devait avoir confiance, en qui il voyait un grand destin.
Vraisemblablement des relations d'affection entre les deux.
Très certainement. Et donc, même si on n'a pas beaucoup d'informations sur le début de la vie d'Octave, on sait que les deux étaient liés et que César, notamment, que Octave était aux côtés de César à plusieurs occasions. Et donc, on peut imaginer, je dirais, c'est tout à fait naturel, qu'il y ait eu une affection, qu'il y ait eu, outre l'affection, l'idée que finalement Octave était quelqu'un de compétent. Et cela explique pourquoi César est allé chercher dans sa famille finalement municipale, c'est-à-dire à travers des alliances qui éloignaient la famille des Iulii de Rome, il a été chercher quelqu'un en qui il a vu, et avec raison d'ailleurs, un grand avenir.
Les effluves de Rome dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?
Et voilà, et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années.
Et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà, et voilà.
regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter. Chapeau pour la route à pied, nuet et nuetée, diva aux pieds nus restera et à Césaria et à la mort aussi. Aux brigades, tu en brigade, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde. Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, hein. Tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité.
Sans oser le demander sur France Culture, Stromae avec cette Ave Césaria qui est évidemment un clin d'œil à César, vous l'avez évidemment compris, Frédéric Hurlé. Parlons peut-être de ce que ça signifie d'être un empereur romain. On n'est pas dans l'idée qui est une idée qui nous arrive de la royauté, de la transmission d'un trône d'un fils à son père. Et le trône n'appartient pas à l'empereur d'une certaine façon.
Exactement. En fait, le trône, qui est un mot peut-être qu'il faut peut-être éviter, mais disons le pouvoir impérial en tout cas.
Parce qu'il n'y avait pas de trône, c'est ça?
Il n'y avait pas de trône, effectivement, parce qu'au début c'était quand même, voilà, c'était une forme de continuité de la République, mais le pouvoir impérial, c'est-à-dire la somme des pouvoirs détenus par un seul homme au sein d'une respublica, c'est comme ça qu'on peut définir le régime, eh bien, cette somme des pouvoirs, elle s'acquiert par le mérite et elle se transmet par le mérite. Donc il faut le mériter, c'est vraiment un point très important. Auguste, évidemment, l'a mérité, puisque, bon, de façon peut-être parfois un peu sanglante, puisqu'il a éliminé tous ses adversaires les uns après les autres.
On l'a dit quand même moins sanglant que son père adoptif, César.
Alors c'est l'image qu'il a voulu donner à la fin, disons, pendant son règne, mais c'est vrai que la prise du pouvoir a été quand même, disons, une aventure sanglante, comme son père de ce point de vue-là, puisque et puis avec un opportunisme qui est assez intéressant et assez frappant, c'est-à-dire qu'au début Octave se rapproche des républicains après la mort de son père, parce que oui, je rappelle pour que ce soit très clair, à la mort de César, il y avait deux camps à Rome, il y avait les républicains qui avaient assassiné César. Et ensuite les Césariens qui voulaient défendre son héritage. Et alors qu'on aurait pu penser qu'en tant que fils de César, Octave allait défendre fortement l'héritage de César et combattre les républicains, au début il s'est allié avec les républicains pour changer de camp ensuite et s'allier avec Marc-Antoine et Lépide, des Césariens tout à fait convaincus. Et puis ensuite, il a éliminé les uns et les autres pour finalement prendre le pouvoir.
Donc c'est une série de trahisons quand même.
Oui, exactement. C'est comme ça que le pouvoir se concevait à Rome. C'est d'abord le pouvoir pour le pouvoir. Et donc, il faut remporter finalement la victoire et toujours se placer. Et c'est ce qu'a très bien su faire Octave. Voilà. Par contre, ce qui change, c'est qu'une fois qu'il a pris le pouvoir, et qu'il a donc remporté la bataille militaire, il faut qu'il remporte la paix également. Et il faut qu'il arrive à créer quelque chose de nouveau, sans finir comme son père adoptif César. Et donc, et c'est là qu'est la difficulté. C'est-à-dire qu'il va créer quelque chose de nouveau puisque lui détient la somme des pouvoirs, mais il ne peut pas dire qu'il est ni un dictateur, le terme de dictature est dévalorisé à la suite du précédent de César, il ne peut pas dire qu'il est un roi encore moins. Donc il va créer un système, un régime très spécifique qu'on appelle le principat, qui est le régime en fait du prince, où le prince est le premier parmi les citoyens.
Mais il reste un citoyen.
Il reste officiellement un citoyen, mais il a tellement de pouvoir, il cumule tellement de pouvoir sur sa personne qu'il dépasse n'importe quel autre citoyen.
Donc ça paraît un artifice de communication.
Oui, évoluer, c'est de la communication. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est ainsi que le futur Auguste, donc Auguste, quand il prend le pouvoir, agissait. C'est-à-dire que il fallait effectivement plaire à tous ceux qui comptaient à cette époque. Donc, il fallait convaincre les sénateurs et leur dire, ben voilà, le pouvoir que j'exerce n'est pas un pouvoir qui se fait à votre détriment. Il fallait convaincre les soldats qui lui avaient donné l'empire, et il fallait convaincre également le peuple de Rome qu'il fallait nourrir et à qui il fallait donner des dons, enfin notamment des ce qu'on appelle des congéaires, c'est-à-dire des dons en argent, de manière, et des jeux, de manière justement à pouvoir, disons, avoir de son côté le peuple. Donc c'était un art de la communication politique qui est bien maîtrisé par Auguste.
Donc on est mandataire, d'une certaine façon, pas propriétaire du pouvoir, mais dans la pratique, c'est un peu de père en fils quand même que se transmet le pouvoir des empereurs romains, Frédéric Hurlet.
Voilà, c'est là le nœud du problème. C'est la faiblesse congénitale du régime. C'est-à-dire que le régime naît, et il naît parce que c'est Auguste qui prend le pouvoir, mais il n'y a pas de règle stricte de transmission. C'est-à-dire il n'y a pas le roi est mort, vive le roi, ce qu'on connaît bien, je dirais, à l'époque pour la France sous l'Ancien Régime, ça n'existe pas. Donc, et en même temps, il y a une dynastie qui se met en place, et qui est une dynastie avec des fils d'Auguste, qui sont tous des fils adoptifs d'ailleurs, parce qu'Auguste n'a pas eu d'enfants biologiques en quelque sorte, d'enfants de sexe masculin, il a eu une fille uniquement. Et donc il y a des liaisons matrimoniales, il y a des stratégies dynastiques qui se mettent en place. Et le but d'Auguste, la stratégie d'Auguste, c'est de faire coïncider la politique dynastique d'un côté et justement la transmission au meilleur, enfin en tout cas à celui qui le mérite. Voilà. Et donc il y a tout, de la part d'Auguste, il y a tout un jeu politique qui consiste à associer son successeur présumé au pouvoir de manière à lui donner l'expérience nécessaire au moment où lui, Auguste, va disparaître.
Donc on est sur quelque chose d'un petit peu hybride, puisque adopter, c'est choisir en effet le meilleur, et pas forcément donc son fils propre. Est-ce qu'il est arrivé dans l'histoire ensuite que des empereurs aient adopté, alors qu'ils avaient un fils qu'ils auraient pu introniser ?
Eh bien non, justement. C'est-à-dire qu'on adopte, quand je dis le meilleur, en général, l'adoption se fait au sein de la famille. Alors, une famille parfois large, quand il y a... Mais on adopte, alors Auguste n'ayant pas eu de fils, il a adopté les enfants de sa fille. Donc on reste dans un cercle familial très très étroit. Et quand les enfants de sa fille sont morts, ont disparu assez jeunes, il a adopté le fils du premier mariage de sa femme, Livie, qui est Tibère, donc celui qui a finalement succédé à Auguste. Donc, qui était son beau-fils, en fait, qui devient son fils adoptif.
On va pas chercher trop loin.
Voilà, donc on va toujours chercher dans le cercle familial aussi proche que possible. Et plus tard, lorsqu'on parle de l'adoption des meilleurs, du meilleur au deuxième siècle après Jésus-Christ, avec une dynastie antonine où on met en avant ce principe du choix du meilleur, eh bien on s'est rendu compte que effectivement, il n'y a pas de fils pour les différents empereurs, et on va choisir quelqu'un qui est assez proche. Et quand il y a un fils, ben c'est Marc Aurèle qui a comme fils Commode, et bien c'est Commode qui succède sans aucun problème.
J'ai souhaité l'Empire et j'y suis parvenu, mais en le souhaitant, je ne l'ai pas connu. Dans sa possession, j'ai trouvé pour tout charme d'effroyables soucis, d'éternelles alarmes, mille ennemis secrets, la mort à tout propos, point de plaisir sans trouble et jamais de repos. Si l'âme a précédé dans ce pouvoir suprême, le grand César, mon père, en a joui de même.
Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Cet extrait de la pièce de Corneille Sina ou la clémence d'Auguste, mise en scène en 1955 par Jean Villard. On y entend Auguste qui se désole des responsabilités du pouvoir, de la fatigue, des dangers que ce pouvoir lui impose. Pourtant, il l'a quand même ardemment désiré, ce pouvoir, Frédéric Hurlet.
Oui, oui, il l'a désiré, mais ce passage, cet extrait est très intéressant, justement, et montre bien à quel point il faut être prudent quand on utilise le pouvoir à Rome, et d'ailleurs dans n'importe quelle société. C'est que Auguste, effectivement, a tout fait pour s'emparer du pouvoir, mais il y avait des modes de pensée qui sont assez spécifiques. Il y a un habitus de la vie du pouvoir, qui était que le pouvoir ne se demande pas. On le reçoit parce que c'est une charge. Et donc, alors, vous allez me dire que c'est un petit peu, antinomique, c'est un petit peu contradictoire. En fait, pas du tout. C'est que ce sont des rituels du pouvoir. Auguste veut le pouvoir, c'est évident, puisqu'il a éliminé ses adversaires les uns après les autres.
Il le faisait peut-être par fidélité à César.
Oui, oui, exactement. Il le faisait aussi par fidélité par César, mais il savait également qu'à partir du moment où il s'était embarqué dans cette guerre contre les autres potentiels concurrents et concurrents par la suite, il n'avait plus le choix. D'ailleurs, quand Octave accepte l'héritage de César, sa mère l'en dissuade au début en disant « c'est très très dangereux le pouvoir ». Et finalement,
Octave... Il consulte beaucoup pour savoir s'il doit justement accepter cet héritage ou pas.
Voilà, il consulte et puis à un moment donné, il décide de prendre le pouvoir. Et quand il a décidé, tout est joué de ce point de vue-là. Ou bien il remporte la victoire, ou à un moment donné ou un autre, il va disparaître. Et d'ailleurs, en 29, peu de temps après la victoire définitive sur Marc-Antoine et Cléopâtre, une année après, les sources disent qu'il a voulu à un moment donné quitter le pouvoir. On s'est interrogé, est-ce que c'est réel? Là encore, c'est un rituel, c'est-à-dire que il fait mine de partir pour expliquer que il n'a pas voulu le pouvoir, que bon, il est prêt selon le lui donne, mais que c'est pas nécessairement ce qu'il voulait faire. Mais en même temps, personne n'imagine à cette époque-là que il va quitter le pouvoir, parce que à partir du moment où il quitte le pouvoir, il est en danger de mort et va être exécuté très rapidement. Donc ce sont des rituels qui sont très très frappants et qui se jouent à intervalles réguliers. C'est-à-dire qu'en 27, Auguste prend le pouvoir de façon définitive en 30. En 29, il songe à le quitter mais il ne le fait pas. Et en 27, il convoque le Sénat. Et finalement, lors d'une séance tout à fait extraordinaire le 13 janvier, il annonce au sénateur qu'il rend toutes les armées et tout l'imperium sur les provinces, c'est-à-dire sa force militaire. Et alors, à ce moment-là, les sénateurs s'écrient en disant « non, non, c'est pas possible ». Tout ça est une comédie qui avait été préparée longtemps à l'avance, la comédie du pouvoir, et qui s'explique par, justement, les rituels à l'œuvre en vigueur à l'époque, c'est-à-dire que Auguste a besoin d'être appelé pour exercer le pouvoir. Et puis finalement, tout cela se résout de façon sans coup férir, sans difficulté. Auguste récupère la moitié des pouvoirs, mais sur les provinces les plus militarisées, en laissant le gouvernement des autres provinces moins militarisées aux sénateurs. Donc il réussit à retourner en quelque sorte la situation en sa faveur.
Mais alors, Auguste, Octave, on dira pourquoi il y a eu ce changement de nom un petit peu plus tard dans l'émission, Frédéric Hurlet, et donc le premier empereur de Rome. Pourquoi finalement a-t-il, c'est une question un peu naïve, souhaité avoir ce titre d'empereur? Après tout, il aurait très bien pu poursuivre, comme cela se faisait depuis des siècles, dans les institutions telles qu'elles existaient là.
Oui, mais c'est ce qu'il a fait. Alors, le titre d'empereur, c'est un titre qui nous vient du mot latin « imperator », qui effectivement a existé, a été donné à Auguste, mais le titre d'impérator, qui est devenu son prénom, n'était pas un titre au même sens, avec le sens que nous lui donnons aujourd'hui, le titre d'empereur. C'est en fait, impérator, c'est le victorieux.
Donc en fait, ça n'est pas une révolution institutionnelle à l'époque qui va modifier beaucoup la vie des Romains.
Non, non, c'est Auguste s'empare de tous les titres, de tous les pouvoirs qui comptaient à cette époque-là, à l'époque de la République romaine, et il les concentre sur sa personne. C'est ça qui fait vraiment le pouvoir impérial. Ce n'est pas une innovation absolue, c'est l'innovation, elle vient de ce que Auguste cumule sur sa personne des pouvoirs d'origine diverse.
Mais ça ne change pas, encore une fois, le quotidien des habitants de l'Empire.
Alors ça a changé. On a parlé de révolution augustéenne. Alors ce terme est un terme qui doit être utilisé avec beaucoup de précaution, parce qu'il n'y a pas de révolution à proprement parler, comme je l'ai dit, puisque j'ai bien expliqué que c'était justement de ce point de vue-là et plutôt une évolution avec un pouvoir qui est exercé par une personne, les principaux pouvoirs. Mais il y a par contre une révolution de la conscience, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les habitants de l'Empire romain ont le sentiment, ont bien compris qu'il s'est passé quelque chose de fondamental à Rome. Ils ont compris qu'il y avait un changement, que désormais ils n'auraient plus à traiter avec des sénateurs qui changeaient régulièrement d'année en année pour le principal pouvoir, c'est-à-dire le consulat, mais ils ont maintenant à traiter avec quelqu'un qui a les pouvoirs de façon permanente et qui va les détenir jusqu'à sa mort. Et donc ça change, parce que ça veut dire qu'il y a une idée monarchique qui fait son chemin tout au long du principat d'Auguste. Et ce qui va être vraiment nouveau, c'est que d'une part, l'image d'Auguste se multiplie à Rome et dans l'ensemble de l'Empire. On a des statues d'Auguste en très grand nombre, on a des bâtiments consacrés d'une manière ou d'une autre à Auguste en très grand nombre
c'est
également.
C'est toute l'idée de la République romaine quand même qui disparaît là.
Voilà, petit à petit, alors ça s'est fait lentement, ça s'est fait avec un langage qui n'est pas le langage des institutions, qui n'est pas le langage habituel du pouvoir, ça s'est fait par le langage des images. Et les images montrent qu'on a changé en quelque sorte de culture politique, qu'on a changé de culture dans le sens où c'est plus l'aristocratie qui dirige, mais c'est désormais un homme avec sa dynastie. Et on voit apparaître dans l'ensemble de l'Empire des groupes dynastiques, c'est-à-dire qu'on a l'empereur avec ses fils adoptifs, avec sa femme, avec sa fille, et tout cela montre qu'on a changé de monde, même si c'est un changement qui est un changement plus dans le visuel que dans les institutions.
Et est-ce qu'on peut considérer, Frédéric Hurlet, que ce changement a modifié la puissance de l'Empire romain, ou au contraire a modifié son rapport avec les Romains eux-mêmes? Qu'est-ce que la concentration des pouvoirs a pu avoir comme effet sur le long terme pour l'Empire?
Alors ça l'a incontestablement rationalisé. C'est-à-dire qu'avec Auguste, on entre dans une, de ce point de vue-là, une ère d'une administration de l'Empire. Je ne veux pas dire qu'avant il n'y avait pas d'Empire, justement avant il y avait un Empire, et je ne veux pas dire non plus que l'Empire de l'époque républicaine était mal administré, mais ça voulait dire qu'il y avait des personnes qui changeaient chaque année, et que pour les provinciaux, il était difficile de savoir à qui s'adresser, puisqu'il n'y avait pas, je dirais, de continuité au sein du pouvoir. Avec Auguste, ça change, parce que désormais les provinciaux savent qu'il faut aller trouver absolument Auguste. Donc ça, c'est vraiment un changement qui est fondamental sur le long terme. Et ensuite, Auguste, parce qu'il a été au pouvoir pendant quand même plus de 40 ans, a créé vraiment, peut-être pas, en tout cas pas une bureaucratie, mais une administration.
Un État vraiment fort.
Voilà, enfin fort, ça reste encore, c'est pas l'équivalent de nos États d'aujourd'hui, mais c'est une administration qui a beaucoup mieux fonctionné que précédemment, parce qu'elle était centrée sur une personne, le prince, et qu'on a créé différents bureaux qui sont liés au prince, et ça est le fruit d'un processus qui a duré tout au long du principat d'Auguste.
Sous le consulat de Marcus Vinicius et de Quintus Lucretius, puis de Publius et de Gnaeus Lentulus, et pour la troisième fois sous celui de Paulus Fabius Maximus et de Quintus Tubero, le Sénat et le peuple romain décidèrent d'un commun accord de me faire nommer seul responsable des lois et des mœurs, avec des pouvoirs très étendus. Je n'ai accepté aucune fonction qui me fût conférée contre l'usage de nos ancêtres. Dès lors, les problèmes que le Sénat m'a confiés ont été traités dans le cadre de mon pouvoir tribunicien, pouvoir pour lequel j'ai pris par 5 fois l'initiative de solliciter du Sénat qu'il me désigne un collègue, et j'ai obtenu satisfaction. J'ai agrandi le territoire de toutes les provinces du peuple romain, voisines de nations qui n'obéissaient pas à notre pouvoir. J'ai pacifié les provinces des Gaules et des Espagnes, ainsi que la Germanie, selon les limites de l'océan, de Cadix à l'embouchure du fleuve Elbe. J'ai fait en sorte que les Alpes, de la région la plus proche de la mer Adriatique à la mer Tyrrhénienne, soient pacifiées sans mener de guerre injuste contre aucune de ces nations. Ma flotte a navigué à travers l'océan, de l'embouchure du Rhin vers l'est jusqu'au territoire des Cimbres, là où aucun Romain n'était allé jusqu'alors, que ce soit par terre ou par mer.
Du Res Gestae, le testament politique d'Auguste, lui ici par Romain de Bec de Lièvre. C'est un livre dans lequel Auguste fait le bilan de sa vie, et dans ce passage en l'occurrence de ses exploits militaires. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce livre? Est-ce qu'on peut s'y fier vraiment, ou est-ce que c'est pareil, une entreprise de légitimation de sa propre vie?
Oui, alors Effectivement, il faut d'abord avoir beaucoup de prudence à l'égard de ce document qui a été écrit, qui est de la main d'Auguste, hein, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que là c'est Auguste qui parle, comme le montre bien l'extrait justement. Alors c'est un bilan, c'est-à-dire que l'idée à travers ce bilan, c'est d'expliquer pourquoi en fait il a finalement pris le pouvoir et surtout de léguer à des successeurs un monde apaisé et de montrer tout ce qu'il a réalisé. Donc c'est à la fois un regard vers le passé, mais aussi vers l'avenir. Donc ça qui est intéressant.
Qu'est-ce qu'il a réalisé à part les réformes administratives dont vous avez parlé et puis donc quelques conquêtes, c'est ça?
Oui, alors les réformes administratives, les conquêtes, mais alors derrière tout cela, il y a aussi l'idée de la paix. C'est-à-dire que désormais, il n'y a plus de guerre civile, qu'il y a des exemples, comme on dit, traditionnels qui sont restaurés par Auguste. Donc en réalité, Auguste se présente comme une sorte d'aboutissement de l'histoire de Rome, comme finalement la quintessence de ce que peut être l'histoire de Rome, c'est-à-dire avec finalement quelqu'un qui combat pour Rome, qui remporte des victoires pour Rome, qui a les vertus qui incarne les vertus traditionnelles du grand personnage romain. Donc ça, c'est véritablement un message qu'il veut faire passer. Alors, il faut être prudent, bien entendu. Alors, j'aime pas le terme propagande, mais je dirais évidemment c'est un message que Auguste veut faire passer. En revanche, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que Auguste évidemment ne ment pas. Il déforme un peu la réalité, il l'enjolive, il l'embellit, mais il ne ment pas. J'aime bien cette expression, il se comporte de façon économique avec la vérité. C'est-à-dire qu'il y a la vérité historique, mais il prend ce qui l'intéresse.
Oui. Et il dit toujours la vérité, mais pas toute.
Voilà, mais il ne dit pas absolument tout, il n'explique pas évidemment les ressorts du pouvoir, mais il mentionne des événements qui ont vraiment eu lieu, il met en avant, en lumière, tout ce qui lui a permis de prendre le pouvoir.
Est-ce qu'il mentionne qu'il a inventé le courrier, par exemple ?
Alors pas dans cet extrait-là. Il y a un autre extrait de Suétone où l'on voit. Alors le courrier n'est pas inventé par Auguste, mais il est encore rationalisé par Auguste dans le sens où c'est Auguste qui met en place ce qu'on appelle le cursus publicus. C'est un terme qui est trop tardif, mais disons la poste impériale où il y a un système de communication qui repose sur des relais et sur des messagers allant de relais en relais. Mais c'est pas nouveau là encore. C'est comme Auguste, comme toujours, c'est pas nouveau, mais c'est porté, affiné de façon telle que finalement ça a transformé la situation.
Vous dites c'est pas nouveau comme toujours avec Auguste, et c'est aussi un portrait de ce personnage qu'on imagine assez prudent au fond, assez consensuel peut-être au moins dans la seconde partie de sa vie après avoir conquis le pouvoir.
Oui, d'ailleurs c'était un de ses mots d'ordre, hein, qu'il aimait répéter. Il dit qu'il vaut mieux être prudent plutôt que d'être audacieux. Donc c'était vraiment lui-même disait. Hein. Donc c'est un art de gouverner qui est tout à fait propre à Auguste, qui s'explique par la mort de son père adoptif. Hein, j'en suis convaincu. Effectivement, il ne peut pas brusquer les choses. Donc il se conduit de façon prudente en permanence, à tout point de vue, en se présentant toujours comme un restaurateur. Et ça, c'est quelque chose d'assez... même à la fin de sa vie, c'est quand même toujours quelqu'un qui a restauré la grandeur de Rome, qui a restauré les vertus traditionnelles de Rome, qui a restauré la piété romaine. Tous ces éléments-là sont des éléments de restauration.
Donc il aura fallu le choc César et ensuite la réparation par Auguste pour finalement apaiser, parce que il était populaire tout de même, pour apaiser Rome et les habitants de l'Empire.
Oui, il était très populaire. Il était très d'abord effectivement très bien vu par la plèbe de Rome, qui effectivement l'a toujours soutenu. Alors je dirais que peut-être le nœud du pouvoir et là où le pouvoir se discute, c'est au Sénat. Là où Auguste sait qu'il doit être très prudent. En revanche, il sait toujours que du côté de la plèbe, il a un soutien. La plèbe qui pensait de façon dynastique, qui acceptait l'idée dynastique, qui acceptait l'idée d'un pouvoir assez fort, finalement, personnel, détenu par Auguste. Donc il y a toujours eu ce soutien. Auguste était également soutenu dans une certaine mesure, et pour autant qu'on puisse en juger, par dans les provinces, puisque les provinciaux se sont ralliés sans aucun problème, sans aucune, je dirais, difficulté à Auguste, en lui élevant des hôtels pour lui rendre un culte, en lui construisant des bâtiments, en le mettant en valeur à travers des statues ou des arcs honorifiques. Tout cela était très 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 flagrant.
Est-ce que lui-même, dans le domaine des arts, de l'architecture, des sciences, a aussi un legs important, Frédéric Hurley?
Dans le domaine des arts, c'est-à-dire que avec Auguste, on arrive à une sorte d'art classique, hein, c'est le classicisme augustéen qui est effectivement un moment important dans l'histoire de l'art romain. Effectivement, c'est très important. Pour ce qui est de l'histoire des sciences, là, on peut pas dire il n'y a pas de réforme, disons, fondamentale à proprement parler. On peut parler sans doute du calendrier romain qui a été déjà corrigé par César, qui a fait correspondre le calendrier civil et finalement le calendrier du soleil, mais Auguste a perfectionné de façon à s'aligner sur le temps du soleil.
Et puis il y a des explorations, parce qu'il n'y a pas que des conquêtes, hein, quand même.
Oui, oui.
C'est aussi quelqu'un qui souhaitait, pas par curiosité pure, mais enfin qui souhaitait explorer des nouveaux territoires sans les conquérir.
Oui, oui. Alors là, il y a cette idée d'exploration, effectivement. Il y a aussi l'idée politique du conquérant, enfin, qui ne conquiert peut-être pas tout, mais qui va jusqu'aux limites du monde. Hein, parce que faut bien évidemment imaginer que les anciens ne se représentaient pas le monde comme aujourd'hui, et que Auguste n'a pas conquis la Bretagne, c'est-à-dire la Grande-Bretagne actuellement, mais il avait des contacts et avait des rois qui étaient en quelque sorte ses alliés officiellement.
C'est la prudence d'Auguste qui veut qu'il ne conquiert pas la Bretagne.
Prudent jusqu'à un certain point, parce que la Bretagne, il a bien fait l'intention. L'Éthiopie, même chose. L'Arabie heureuse, c'est-à-dire le Yémen, exactement aussi. Mais en revanche, il a quand même eu un accident assez grave en Germanie, où là, il a été convaincu qu'il pouvait conquérir la Germanie et aller jusqu'à l'Elbe. D'ailleurs, votre extrait parlait des armées romaines allant jusqu'à l'Elbe, ce qui est la réalité. Sauf que, à la fin de son règne, en 9 après Jésus-Christ, il a subi une très grave défaite, la bataille de Teutobourg, dans la forêt de Teutobourg, qui l'a conduit finalement à retirer ses troupes et à les cantonner le long du Rhin et non plus jusqu'à l'Elbe.
Ici, on pourrait rappeler que ce titre a été donné à Octave en 27, quand le Sénat a sublié celui qui était le sauveur de la situation, qui, ne l'oublions pas, avait rétabli la paix après 100 ans de guerre. Et alors, il a évidemment préféré le nom d'Augustus, qui a comme personnification d'être celui qui a en quelque sorte valorisé d'une manière surnaturelle. N'est-ce pas? Georges Dumézil a très bien démontré que si le mot est formé sur la racine augere, accroître, il marque non pas une augmentation, mais un plein pouvoir surnaturel, si vous voulez, un halo surnaturel qui rend le personnage protégé d'une manière exceptionnelle. Et voilà la raison pour laquelle Octave a préféré ce surnom qui lui donnait un prestige religieux et en même temps une protection surnaturelle.
Sans oser le demander, sur France Culture, il y a une archive de Robert Schilling, historien et latiniste spécialisé dans l'histoire de la religion à l'époque de la Rome antique. Il parlait de la dimension religieuse et surnaturelle du surnom d'Auguste dans cette archive de 79. Alors Frédéric Hurley, parlons peut-être un peu des noms d'Auguste, Auguste, Octave, César. Pourquoi ces changements de nom? Qu'est-ce qu'ils représentent? Comment faut-il l'appeler?
Oui, c'est très compliqué. En fait, dès qu'on écrit sur Auguste, on se sent toujours un peu obligé de justifier ses choix, et c'est normal. Auguste est le nom que nous avons retenu et qui est un nom bien commode, mais évidemment qui ne s'appliquait pas à l'Antiquité. Auguste, en fait, c'est son problème, c'est notre problème à nous, historiens, pour que ce soit aussi clair que possible, c'est que Auguste a eu plusieurs noms en fonction justement de son statut. Au début, à sa naissance, en tant que fils de Caius Octavius, il s'appelle lui aussi Caius.
On reprend traditionnellement le nom de son père.
Voilà, on reprend, quand on est fils aîné, oui, on reprend le prénom et toujours le nom. Donc, Caius Octavius comme son père. Donc, ce qui a donné en français Octave. Et ensuite, lorsqu'il est adopté par César, officiellement, il devient Caius Julius Caesar. Ou alors, on l'appelle César le Jeune, ce qui est un nom que peuvent donner les historiens, mais officiellement, c'est Caius Julius Caesar, où on rencontre Caius Caesar également. Alors, certains historiens lui donnent le nom d'Octavien, qui n'est pas Octave, donc avec Octavianus, qui est le latin Octavianus. Ça voudrait dire, en fait, que... il s'appelle Caius Julius César, puis on ajoute Octavien pour indiquer qu'avant, il faisait partie de la famille des Octavii. Mais en réalité, il semblerait que ce soit un surnom péjoratif, donné notamment par Cicéron, pour un peu le déprécier, pour dire, bon, tu as le nom de Jules, c'est vrai, mais n'oublie pas que tu viens d'une famille...
Souviens-toi d'où tu viens.
Voilà. C'était exactement, tu t'appelles Octavius à l'origine. Mais donc, du coup, il faut être très prudent avec ce surnom d'Octavien, même s'il est utilisé souvent pour désigner Auguste entre son adoption et 27 avant Jésus-Christ. Et puis, on a 27, qui est la date évidemment importante, en janvier, puisque là, on lui donne le surnom d'Augustus. Donc, désormais, à partir de 27, alors, il s'appelle...
Alors, on lui donne, c'est-à-dire, c'est qui?
Le Sénat lui donne le surnom d'Augustus. Donc, c'est vraiment...
Donc, c'est une reconnaissance officielle du Sénat.
Une reconnaissance par, justement, ceux auxquels il a finalement enlevé le pouvoir, puisqu'il se place au-dessus du Sénat, finalement. Mais le Sénat lui reconnaît cette... Robert Schilling parle de halo surnaturel, en tout cas, ce prestige religieux qui est que comporte le titre Augustus.
Et pourquoi comporte-t-il ce prestige, ce titre-là en particulier, ce nom-là en particulier?
C'est la racine, donc effectivement, c'est une racine liée à augere, à auctoritas, et Augustus, c'est en fait, alors c'est un terme qui est assez compliqué à traduire, Auguste, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça peut être quelqu'un qui est vénérable, quelqu'un qui a un pouvoir quand même qui accroît ce qu'il touche, ce qui est autour de lui. D'ailleurs, les Grecs, pour traduire cela, disaient « semnos », c'est-à-dire disaient « vénérable » en quelque sorte. Donc c'est pas un pouvoir officiel, mais c'est quelque chose qui lui donne vraiment une sorte... Alors j'aime pas le terme surnaturel, parce que Auguste reste un homme malgré tout, mais qui lui donne un prestige religieux assez fort. Et à côté de ça, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, Auguste s'était fait reconnaître aussi par les sénateurs le prénom de Imperator, qui a donné notre mot empereur, mais qui à l'époque était un prénom, et puis se fait reconnaître, en tout cas de façon, je dirais, officielle, Caesar. Mm-hmm. Donc, il s'appelle à partir de 27... Imperator Caesar Augustus, l'empereur César Auguste. C'est son nom officiel, c'est comme ça qu'on le voit sur les monuments, et on ajoute « fils du divin » pour indiquer qu'il est le fils du divin César, et là c'est important parce qu'il y a justement le lien avec la divinisation de César.
Oui, c'est ça, il y a quand même un rapport avec la religion chez Auguste, qui lui-même joue beaucoup de cela, fait construire un certain nombre d'édifices religieux. Quel peut être son rapport intime, selon vous, c'est difficile de répondre, mais à la religion, est-ce que c'est simplement un outil politique pour lui?
Alors, c'est difficile aller au cœur même, je dirais, de l'esprit d'Auguste, savoir exactement comment il pensait d'un point de vue religieux, c'est quelque chose de très compliqué. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Par contre, ce que l'on voit bien, c'est comment Auguste se comportait dans la vie publique de façon, dans la vie publique religieuse, en quelque sorte. Et là, il est clair que la religion était centrale dans le message qu'il voulait délivrer. C'est à la fois quelqu'un, vous l'avez dit, qui construit des temples, mais aussi qui les restaure. Et qui prépare petit à petit le culte de sa propre personne.
Et notamment avec un enterrement qui va être grandiose.
Oui, alors là, voilà, autant l'enterrement de César, son père adoptif, a été un enterrement un peu, je dirais, qui n'a pas du tout été préparé, autant l'enterrement, les funérailles d'Auguste ont constitué un événement préparé de longue date, au point que d'ailleurs Auguste, avait écrit un ouvrage avec des instructions pour ses funérailles. C'est fondamental parce que c'est le moment où, d'abord, le régime se transmet. Donc c'est le moment où on
à peut... Tibère, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Voilà, à Tibère, mais c'est le moment, est-ce que ça va fonctionner? Et ça a bien fonctionné, mais c'était la première succession impériale, donc c'était un petit peu quand même l'inconnu. Et puis c'est le moment où Auguste devient un dieu. C'est-à-dire que dans la religion de Rome, l'empereur de son vivant n'était pas un dieu. Il avait très certainement il était le fils d'un dieu, mais n'était pas encore un dieu. Donc c'était une position un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire il était un homme, mais plus que n'importe quel homme, mais pas encore un dieu. Et avec la mort d'Auguste en 14, là, c'est la divinisation officielle.
Et on a raconté que le dernier jour de sa vie, alors qu'il sentait venir sa dernière heure, il s'est fait donner un miroir et il a demandé à ses amis s'il avait bien joué la comédie de la vie. Merci beaucoup Frédéric Hurlet d'avoir fait le point pour nous sur ce premier des empereurs romains qu'a été Auguste. On va pas s'arrêter en si bon chemin évidemment parce que c'est le moment de vous retrouver. Romain de Bec-de-Lièvre, bonjour à vous.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et de cliquer sur votre pièce jointe.
Insatiablement avide de l'obscur et de l'incertain, je ne geindrai pas comme Ovide, chassé du paradis latin. C'est la seconde strophe d'Horreur sympathique, un court poème des Fleurs du Mal de Baudelaire. Il évoque Ovide, le poète des débuts de l'Empire romain, né à la charnière du 1er siècle et actif sous le règne d'Auguste. Ovide est célèbre pour ses Métamorphoses, un livre qui entreprend de raconter en 15 chants l'histoire et les âges successifs du monde, où les femmes et les hommes changent d'apparence, deviennent des grottes ou des fleurs, des animaux ou des choses. Tout a changé et tout change tout le temps. Les vers d'Ovide contiennent un déluge de récits et assemblent dans un nouvel ordre les figures de la mythologie. À la fin des Métamorphoses, au chant 15, il est question de César et Ovide le décrit en ces termes. Voyons. Est-il plus beau d'avoir dompté les Bretons sur les mers, d'avoir poussé ses vaisseaux victorieux jusqu'au fleuve, aux sept embouchures, le Nil fertile en papyrus, d'avoir ajouté au peuple de Quirinus les Numides rebelles, Juba du Sinips, le pont si fier du nom des Mithridates, d'avoir mérité de si nombreux triomphes et d'en avoir célébré quelques-uns, que d'avoir engendré un tel homme. En faisant de lui le maître du monde, Dieu du ciel, vous avez fait au genre humain une immense faveur. Donc, pour que celui-ci ne fût pas né d'une semence mortelle, il fallait que celui-là devînt Dieu. Gloire à César, l'homme-dieu, père d'Auguste. Je viens de lire un extrait de la traduction des Métamorphoses par Daniel Robert, publié chez Actes Sud. Dans les vers du poète, on entend l'immense exaltation du fondateur de l'Empire. Cependant, léger problème, Ovide décrit César comme le père d'Auguste, alors que ce dernier n'est que le petit-fils de la sœur de César. Il ne serait pas interdit de voir de l'ironie dans cet écart et de l'outrance dans ces vers qui dessinent un éloge peut-être un peu trop appuyé de l'empereur. En l'an 8 de notre ère, Auguste a officiellement ordonné par un édit la relégation du poète Ovide hors de la cité romaine. Il est condamné à l'exil vers l'Est et ses œuvres sont interdites de publication dans l'enceinte de la ville. On l'assigne à résidence dans la ville de Tomis, en City Mineure, l'actuelle Constanza, en actuelle Roumanie, où il finira ses jours. Mais alors pourquoi Ovide a été, pour reprendre les mots de Baudelaire, chassé du paradis latin? Eh ben, on ne sait pas. La raison de cet exil à vie demeure à ce jour encore mystérieuse. Les hypothèses ont été proposées, comme la publication de L'Art d'aimer, œuvre que l'empereur aurait jugée licencieuse. À Tomis, en Roumanie, Ovide continue d'écrire. Il compose des recueils, des tristes et des pontiques, poèmes de lamentation et de nostalgie. L'exil d'Ovide a fait date dans l'histoire de la poésie mondiale. Avant Victor Hugo à Guernesey et Mahmoud Darwish n'importe où hors de la Palestine, Ovide a connu et chanté l'éloignement du pays natal et fait de l'exil la matière même du chant.
Et oui, pas si doux quand même cet empereur finalement. Merci beaucoup Romain de Bec-de-Lièvre. Votre chronique, elle est à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France, tout comme notre émission, évidemment. Et pour aller plus loin, on peut lire Auguste, les ambiguïtés du pouvoir de Frédéric Hurlet, publié chez Duno. On peut encore se procurer le deuxième volume de l'histoire romaine qui paraît chez Fayard et qui porte donc sur la période qui va d'Auguste jusqu'à Constantin.